Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans le temps du débat que je suis heureux de présenter exceptionnellement en remplacement d'Emmanuel Laurentin que vous retrouverez demain. Et au programme ce soir, une question, peut-on parler de Proust sans l'avoir lu ? Trop long, trop fastidieux, trop ennuyeux, pas le temps, pas le courage, pas d'intérêt, sans intrigue, sans fin, 100 fois essayé, jamais achevé. Combien de fois avons-nous entendu, recouru même à ces arguments pour ne pas lire Marcel Proust, pour ne pas entamer, poursuivre, achever à la recherche du temps perdu. Et pourtant, il est un paradoxe frappant, les commentateurs de cette œuvre majeure sont bien plus nombreux que ses lecteurs. Comme si parler de l'œuvre de Proust avait plus d'intérêt que de s'y plonger. Alors peut-on parler de Proust sans l'avoir lu ? C'est la question qui guidera le temps du débat et qui s'inscrit dans le podcast lancé par France Culture dans le cadre du centenaire de la disparition de l'auteur de la recherche. Avec nous pour débattre, trois invités ce soir. Mathilde Brézet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignante en lycée, vous publiez Le Grand Monde de Proust chez Grasset, un dictionnaire des personnages de la recherche du temps perdu. Avec nous également Véronique Aubouy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes cinéaste et performeuse, vous réalisez un film depuis 1993 dans lequel vous faites lire deux pages de la recherche à des personnes de tous horizons, de tous profils, de tous milieux. Entre autres projets autour de l'œuvre de Marcel Proust, vous jouez aussi un spectacle intitulé Proust Marcel Club qui mélange amateurs et professionnels autour de l'œuvre et des personnages de Proust. Avec nous enfin Philippe Garbi, bonsoir.
Bonsoir.
Une voix connue à France Culture puisque vous êtes l'ancien producteur des Nuits de France Culture, auteur de documentaires sur Proust, documentaires nombreux et notamment « À voix nue » de Jean-Yves Tadier, un grand proustien. Nous en reparlerons. Merci beaucoup à tous les trois d'être là. À toutes et tous, bienvenue dans le temps du débat.
J'ai abordé Proust de façon très lente et à plusieurs reprises. Au début, ça n'a pas été facile. J'ai d'abord trouvé Proust dans la bibliothèque de mon père. J'étais dans des études de première supérieure, j'avais beaucoup à faire, Louis Grand, je ne sais pas, enfin ça n'a pas marché. Ensuite, eh bien, il y a eu la guerre, enfin pour moi, c'est-à-dire que j'ai été mobilisé en 18, et je n'ai, je crois, recommencé à lire alors des fragments de Proust publiés dans la Nouvelle Revue Française vers 1920-21. Et cela m'a alors, peut-être parce que c'était des fragments, probablement très bien choisis par Rivière Collin, c'était moins long, les fragments choisis étaient peut-être ceux qui pouvaient atteindre immédiatement enfin, un lecteur. Cela m'a touché. J'ai été séduit par Proust.
La voix de l'écrivain et poète Francis Ponge dans une émission de 1963 signée Robert Valette et Georges Gravier. Et si l'on a commencé, si l'on a souhaité commencer avec ce son choisi par l'équipe du temps du débat, c'est pour montrer que les plus grands hésitent à entrer dans la recherche du temps perdu. Ils y entrent par hésitation, par aller-retour, par fragments. Et au fond, c'est peut-être pour cela que beaucoup en parlent, que peu le lisent entièrement. C'est parce qu'au fond, c'est compliqué d'y entrer, n'est-ce pas, Philippe ?
Non.
C'est pas dur d'y entrer ?
Pas du tout. C'est pas du tout difficile d'y entrer.
Alors moi-même qui n'ai pas lu entièrement La recherche du temps perdu, je dois dire que ça a été compliqué, que c'est à chaque fois compliqué de m'y plonger entièrement.
D'où votre provocation de, voilà, d'entrer comme ça.
Dans l'intitulé de l'émission.
Oui, oui, tout. C'est long, c'est ennuyeux, il n'y a pas d'intrigue. Enfin vraiment, bon, c'est pour nous provoquer, c'est le temps du débat.
Vous êtes trois proustiens, donc je suis obligé de prendre la position inverse.
Des bâtons. Non mais en tout cas, c'est pas une obligation de lire Proust, ça déjà, puisque si on veut donner envie de lire Proust, et après tout, on n'est pas pourquoi donner envie de lire Proust. On pourrait très bien passer toute sa vie sans avoir lu À la recherche du temps perdu. Il y a tellement d'auteurs qu'on n'a pas lus, il y a beaucoup plus d'auteurs qu'on n'a pas lus que d'auteurs qu'on a lus. Bref, pourquoi lire Proust, mais pourquoi aussi, pourquoi dire aux gens c'est honteux de ne pas lire Proust, c'est absolument pas honteux de toute manière. Là, on a lu beaucoup moins, on n'a pas lu tous les livres, La chair n'est pas triste, etc. Et tout, on n'a pas lu tous les livres, et puis on peut ne pas lire Proust. Et puis un jour, on peut, par hasard, ou parce qu'un professeur de français vous dit « lisez », ça peut être dans le cadre des études d'ailleurs, « lisez Un amour de Swann », on commence par Un amour de Swann, ce qui est une bonne idée, et puis on aime, voilà. Mais on aurait pu laisser à la 50e page ou à la 12e page. Pourquoi ? Alors ça, j'en sais rien, c'était la fameuse chimie mystérieuse du pourquoi on aime tel et tel auteur, pourquoi on se reconnaît dans les phrases, dans le style, dans la sensibilité, et pourquoi on a envie d'en savoir plus.
Alors, et pourquoi vous vous reconnaissez alors dans ce style, dans cette sensibilité?
Alors, j'en sais absolument rien, bien entendu. J'avais 16 ans quand j'ai lu Un amour de Swann, et puis après, je me suis dit, bon, je sais que c'est dans le premier tome, du côté de chez Swann. Ce Swann n'est pas le narrateur, je sais qu'il y a un narrateur, mais comment le narrateur est-il au courant de toute cette histoire-là? Est-ce que c'est... Bref, donc j'ai attendu quelques mois, l'été qui a suivi, et puis là j'ai passé mon été à lire À la recherche du temps perdu, dans l'édition Livre de poche, vous savez, c'était avant les folios, on voyait des petites photos de Proust, enfant, adolescent, enfin peut-être pas enfant, si enfant, adolescent, etc., plus âgé, à Venise, au jeu de paume, tout ça, enfin bref. Et ben c'est un roman, c'est-à-dire qu'il y a des personnages, on le sait, Mathilde Brézel a fait quelque chose de grand sur le grand monde de Proust, sur tous les personnages, et c'est ce que j'aimais adolescent, enfant, adolescent, c'était des romans avec des histoires, avec des personnages. Et ben je les ai trouvés, ces personnages-là, et puis en plus il y avait un style, quelque chose qui était envoûtant et qui continue à l'être.
C'est un roman, mais c'est un roman particulier, Véronique Auboul, puisque c'est un roman sans intrigue claire, sans thématique affirmée, sans sujet de société. Hein, c'est à la mode aujourd'hui quand on écrit des romans. Est-ce que c'est cela qui explique au fond que c'est parfois difficile, comme pour moi, d'entrer dans l'œuvre de Marcel Proust?
Mais alors moi je suis pas d'accord. Il y a beaucoup d'intrigues dans La recherche du temps perdu. Beaucoup, beaucoup, en fait. Il y a vraiment des histoires qui se poursuivent. Il y a des personnages qui vivent, qui évoluent. Et non, moi, je trouve que c'est certes un roman dans lequel il alterne de la pensée avec des histoires, mais ça n'empêche pas qu'on est très... D'ailleurs, moi, quand je le raconte vraiment comme une histoire palpitante. Enfin, je pense que... Le public suit l'histoire comme si c'était une histoire comme les autres. Et de toute façon, oui, c'est pas aussi parce que il parle finalement de nos émotions et de nos sentiments. Quand on est petit, on a besoin pour s'endormir parce qu'on a peur de la nuit, du baiser de maman. Eh bien, ça, c'est une vraie histoire.
Mathilde Brézel, on a tout de même l'impression que parfois il faut avoir lu Proust, que c'est un élément de légitimation sociale. Alors pourquoi le lire pour le lire ou pour dire qu'on l'a lu?
On entend de temps en temps des gens qui parlent de Proust et quand on est soi-même lecteur de Proust, on peut reconnaître s'il l'a lu ou s'il l'a pas lu. Il y a un critère très simple pour ça, c'est qu'un lecteur de Proust, un vrai lecteur de Proust, arrêtera très vite de vous parler de Proust pour se mettre à vous parler de lui. C'est-à-dire qu'il se mettra très vite à vous expliquer les circonstances dans lesquelles il a commencé à lire, échoué, finalement réussi. Et j'ai l'impression que deux lecteurs sont obligés de passer par cette espèce de récit initiatique de leurs échecs.
Est-ce que c'était pas le souhait de Proust lui-même lorsqu'il disait que quand on lisait La recherche, on se lisait un peu soi-même?
Oui, ça c'est, je pense, l'autre grande qualité du texte et qui fait que, malgré tout, À la recherche du temps perdu, peut-être si peu lu, peut-être trop facilement effleuré, reste un chef-d'œuvre de la littérature et vaut la peine qu'on le lise, puisque c'était votre question de début d'émission, pourquoi le lire? Parce que je crois que dans cette œuvre, il y a à un degré inégalé ce phénomène qui est le propre de la littérature et le propre du roman, qui est l'élucidation de soi-même. Je lis quelqu'un et je comprends le monde et je comprends des choses que j'avais jamais vues avant sur moi, sur les autres, sur la vie. Et À la recherche du temps perdu, si peut-être il y a une raison pour laquelle il faudrait que les gens essayent, c'est celle-là. C'est qu'ensuite, on a l'impression que des écailles nous tombent des yeux et qu'on voit le monde d'une autre manière.
Mais c'est pour ça qu'il faut le lire jeune. En fait, il faut commencer jeune parce que c'est à 15, 16 ans, 17 ans qu'on se forme et qu'on a envie de suivre le narrateur ou au contraire, petit à petit, de quand même de s'en éloigner parce que c'est pas comme modèle d'amoureux, c'est peut-être pas exactement ce qui est le plus agréable, quoi, à suivre.
Philippe Garvie, je voudrais vous faire commenter une phrase d'un autre provocateur, Roland Barthes, bonheur de
provocateur que vous.
Plus que moi, oui. Provocateur, bonheur de Proust, deux points. D'une lecture à l'autre, on ne saute jamais les mêmes passages. C'est une manière de lire et d'aborder Proust qu'au fond, de créer son propre chemin, de créer sa propre lecture de La recherche du temps perdu.
Moi, je n'ai jamais sauté. Enfin, si je commence à sauter des lignes, voire des pages dans un roman, c'est qu'il m'ennuie et je le laisse. J'ai aucune gêne à abandonner un roman. Enfin, ou de même qu'on peut quitter la salle d'un cinéma si le film est très très ennuyeux. Où serait la gêne, enfin, de quitter? Non, je pense qu'on continue à lire Proust et les lignes après lignes, parce qu'on veut savoir. Enfin, de même que dans un petit roman policier, on ne sauterait aucune ligne. Tout est important, tout est intelligent, tout est. Alors, après, il y a les relectures. Mais même dans les relectures, je pense qu'il faut faire une relecture complète. Parce que faut-il lire Proust, mais faut-il le relire? Ça, sûrement, vous allez dire que oui, il faut le relire, non?
Moi, je suis en complet désaccord avec ce que vous venez de dire.
Moi aussi.
Alors, Mathilde Brézé, allons-y, nous sommes dans le temps du débat. Mathilde Brézé, vous avez votre droit de réponse.
La recherche du temps perdu, c'est très très long. Ça fait plus de 3000 pages, il y a 7 tomes. Moi, au contraire, et en tout cas dans mes classes, je conseille beaucoup, beaucoup à mes élèves de sauter des passages. Et je leur apprends, je fais des cours exprès pour apprendre à sauter un passage, c'est-à-dire où est-ce qu'on laisse, où est-ce qu'on reprend, comment, au fond, se rendre la vie plus facile, comment aider cette attention si diffuse qui a tellement de mal à se concentrer sur un texte, et même sur Proust.
Il existe même des éditions aujourd'hui qui présentent l'œuvre par fragments.
Ah non, ça je...
Ah ouais, non, ça non.
Ça vous refusez totalement.
C'est une bête très compliquée qui tient à avoir dans les mains le texte entier, mais qui tient à lui sa liberté pour naviguer à l'intérieur.
Pour choisir ses propres fragments.
Exactement.
Mais comment savoir si on ne laisse pas des passages qui sont très importants et...
Véronique Aubouy, vous souhaitiez répondre également.
Oui, en fait, alors moi, vraiment, je pense que c'est lié, bien sûr, aussi au phénomène d'endormissement, c'est-à-dire que c'est très beau de s'endormir sur une phrase qui va nourrir après les rêves, et que donc, il y a quand même un phénomène d'hypnose dans cette lecture de Proust. C'est-à-dire qu'on peut effectivement, je le vois bien d'ailleurs quand les gens me demandent des scènes à la Maison de la Poésie, ils ont souvenir parfois de quelque chose qu'ils n'ont pas lu en fait, enfin qui n'existe que dans leur imagination, c'est parce qu'ils ont continué.
Le meilleur moment de la lecture, c'est quand on lève les yeux.
Oui, 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 mais c'est vraiment parce que ça permet la rêverie et parce que justement ça renvoie à soi, comme disait Mathilde, c'est vraiment ça, on est toujours là, vraiment présent quand on lit le livre. Et on réinvente.
Je voudrais vous faire commenter une phrase de Nicolas Ragoneau sur son blog Proustonomics. Je le cite, j'ai nommé abandonniste tous ceux qui décrochent au bout de quelques pages de Du côté de chez Swann ou plus tard, à la fin de l'ombre des jeunes filles en fleurs. À eux seuls, les deux premiers tomes de La Recherche sont vendus davantage que tous les autres tomes cumulés. Lire uniquement Du côté de chez Swann signifie qu'on a seulement lu 14% de La Recherche. C'est comme si vous vous arrêtiez à la page 14 d'un livre de 100 pages. Philippe Garbi, est-ce que vous pensez au fond qu'on a lu Proust lorsqu'on a lu ces deux premiers tomes, ou en tout cas que l'essentiel s'y condense?
On peut lire aussi Le Crime de l'Orient Express et arrêter à la page 50, pourquoi pas, ou Les Dix Petits Nègres, ou qui ne s'appelle plus Les Dix Petits Nègres, mais oui, on peut toujours arrêter une lecture, ça c'est pas interdit, et on peut aussi... Mais quel intérêt, c'est quand même un roman à La Recherche du Temps Perdu, donc il se trouve qu'il y a 7 volumes et qu'il y a des titres différents, mais... Puisqu'on aime les personnages, on a quand même envie de savoir ce que va devenir Gilberte Swann. D'ailleurs, comment est-elle? Pourquoi devient-elle? Parce que finalement, Swann, on sait bien qu'il va abandonner, il va quitter Odette, qui n'était pas de son genre, une femme pour lui. Finalement. Sauf que, voilà, le narrateur doit tomber amoureux de la petite Gilberte. Et l'a déjà rencontré d'ailleurs, quand on rencontre Swann. Donc, on a envie de savoir, on peut pas sauter une page, Mathilde Brézé. Enfin, une page, quelle horreur. Pourquoi pas deux pages, trois pages? Non, non. Et donc, c'est une envie.
Qu'il y a des regards de défiance et de provocation désormais dans ce studio.
Non, mais. On a envie d'aller jusqu'au bout. Alors, je comprends très bien qu'on abandonne. Moi, il y a des tas de choses, de romans, sans doute, que j'ai dû abandonner ou que je ne pourrais pas relire, que j'ai aimé à 20 ans, mais que je ne pourrais pas relire. Et puis, vous dites, Mathilde Brézé, que voilà, vous dites à des jeunes gens de 15, 20 ans, de je ne sais pas quel âge.
17 ans.
17 ans. Bon, ben voilà. Ne leur dites plus qu'il faut sauter des lignes, s'il vous plaît. Mais quand ils auront mon âge, par exemple, eh ben, ils seront contents de relire et là, de lire intégralement. Parce que certaines lignes, certains passages leur auront échappé, mais c'est bon de savoir que tel individu, ou que le prince de Guermantes va peut-être un petit peu évoluer, que la princesse de Guermantes, dans le temps retrouvé, ne sera plus la princesse de Guermantes qu'on a connue dans le côté de Guermantes.
Oui, c'est un des grands charmes de la lecture, évidemment, et moi c'est ce que j'ai adoré dans La Recherche du Temps Perdu, c'est cet effet de surprise, c'est-à-dire que Proust nous présente des personnages et les fait changer de manière totalement inattendue, constamment. Donc les gens ont une, deux, trois, quatre, cinq incarnations et on n'en croit pas ses yeux. Mais encore faut-il arriver à garder ses yeux sur la page, parce que... Moi, je fais partie des grands lecteurs, des gens qui lisent beaucoup, mais je pense à ceux qui se disent eux-mêmes petits lecteurs, voire non-lecteurs, et qui trouvent ça épouvantablement difficile de rester accroché à cette œuvre. Et j'ai pu faire l'expérience, justement, avec une classe de STMG, donc de première, qui eux-mêmes se disent petits lecteurs ou pas lecteurs du tout, des vertus que pouvait avoir l'extraction d'un morceau, d'un petit flacon d'essence à la recherche du temps perdu.
Oui, mais ça, c'est des morceaux choisis. Et c'est très bien de les faire étudier. Mais peut-être que quand on part dans un roman, quelle que soit l'édition de la recherche du temps perdu, par exemple, non, mais vous êtes professeur, vous savez mieux.
En tout cas, à la fin, ils auront pris une idée de Proust, et comme on peut goûter l'eau et pour avoir une idée de température, voilà. On peut goûter, c'est déjà 500 ou 600 pages, seulement un tome ou seulement deux tomes de la recherche du temps perdu, et plus tard, non pas relire, comme vous le disiez, mais découvrir ce qu'on avait manqué.
Véronique Aubouy, si vous deviez vous positionner dans ce débat, est-ce que vous pensez qu'il y a dans un fragment de Proust l'essence même de
oui.
toute son œuvre?
Oui. Alors moi, je vis entourée de gens qui n'aiment pas Proust, c'est terrible. Hein.
C'est difficile, oui.
Masochiste.
Mais de temps en temps, il arrive que ces gens-là rencontrent une phrase de Proust, par hasard, ils l'ont lu, ils l'entendent. Et là, le miracle se produit. Donc effectivement, oui, bien sûr que il est très important. Enfin, moi, je recommande toujours aux gens d'ouvrir le livre n'importe où. D'autant plus que les personnages, on va parler des personnages.
Philippe Garbi lève les yeux au ciel. On a trois manières ici d'entrer dans l'œuvre de Marcel Proust, en tout cas.
Oui, et c'est vrai que les personnages, moi je trouve que la grande force des personnages de Proust, c'est que ce sont des hommes et des femmes libres, en fait. Ils sont libres et ils n'ont pas un destin qui leur est accroché comme ça, comme chez d'autres romanciers, où on voit que petit à petit, la vie se défait et qu'ils vont inexorablement vers leur destin. Les personnages de Proust sont toujours surprenants. Ils vivent leur propre vie quand on est en train de s'occuper d'autres personnages, ou bien quand on a arrêté de lire. Ils continuent à vivre et ils évoluent.
Et à mourir, et ils meurent deux fois parfois même.
Ils meurent deux fois, comme Bergotte, effectivement. Ou Swann, on ne sait pas vraiment. Enfin oui.
Ah, Swann, il meurt qu'une fois.
Il meurt, mais on le voit malade. Mm-hmm. Mais, et peut-être même René Steele, enfin Albertine, à un moment on croit qu'elle est peut-être revenue. Mais en tout cas, il y a toujours cette chose de l'illusion de la vie, en fait. C'est-à-dire que parfois, on croise dans la rue quelqu'un, on se dit « Ah ben tiens, il n'est pas mort, lui. » Ou alors, j'avais cru. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment très, très fort chez Proust.
Philippe Garbi, pardon, je t'en prie.
Vous parliez de marqueur social, ou de marqueur comme ça, intellectuel, etc. J'ai revu La maman et la putain qui ressort ces jours-là. Le film est toujours excellent. Et Jean-Pierre Léo, donc le personnage, enfin Alexandre, qui passe du Flore au De Mago, mm-hmm. De Mago au Flore, a trois ou quatre reprises un volume de la recherche dans ses mains. Alors, volume fermé, il ne s'agit pas de le lire, il s'agit de le poser sur la table et d'attendre son whisky. Mais il est proche, comme ça, il est peut-être, la main est proche du volume. C'est plus qu'un marqueur, c'est un signe. Proust. Et parfois, quand il est ouvert, il l'éloigne. C'est-à-dire que c'est pas fait pour être lu. Dans La maman et la putain, c'est abandonné. Enfin, c'est très anecdotique, l'apparition de Proust, enfin de la recherche.
Mais ça illustre bien peut-être aussi que c'est un marqueur social.
Oui, voilà. Mais de toute manière, en effet, personne ne viendrait dire à Alexandre, Jean-Pierre Léo, mais ah bon, tu lis Proust, etc. Mais il s'agit pas de lire Proust, il s'agit d'avoir Proust dans sa main.
Mathilde Brézet, est-ce que vous pensez que le statut même de l'œuvre de Marcel Proust, le fait que ce soit un grand classique de la littérature française, sert ou dessert le texte ?
Je pense que ce qu'on dit de Marcel Proust sans l'avoir lu ou avant de l'avoir lu effraie les non-lecteurs. C'est-à-dire que c'est le plus grand de la littérature française, au choix, ou seulement du XXe siècle, si on a d'autres affections, ou le plus grand de la littérature mondiale. Les autres faits qui se transmettent, par oui dire, vont concerner le style, sinon. Son style, tu vas voir, c'est très long. Ouh là là, c'est très très long, il n'y a pas de point. Les phrases durent plusieurs pages. Et ce genre de remarques, je le pense, oui, effraient les lecteurs qui hésitent à s'y plonger. Mais moi, pour revenir à cette histoire de Proust marqueur social, j'ai l'impression qu'au contraire, il a même disparu. Moi qui enseigne, qui suis dans une salle de professeurs ou qui ai vu plusieurs salles de professeurs ou qui croise des gens qui eux-mêmes travaillent ou ont une vie active, j'ai l'impression que Proust comme marqueur social a disparu. Plus personne. Proust non seulement n'est pas lu, mais il n'est même plus utilisé comme marqueur social.
Même si ça commence par du snobisme, ou voilà, c'est un marqueur social, pourquoi pas, après tout, peu importe. Si après on aime réellement, quelle que soit l'entrée finalement dans une œuvre
Le snobisme comme point d'entrée dans la littérature.
Bah, évidemment.
Absolument. Vous écoutez France Culture, il est 18h40 et on tente de répondre à cette question. Peut-on parler de Proust sans l'avoir lu ?
Dernière heure. On a appris avec satisfaction, dans les cercles bien informés, qu'une légère détente semble s'être produite dans les rapports franco-prussiens. On attacherait une importance toute particulière au fait que M. de Norpois aurait rencontré Unter den Linden, le ministre d'Angleterre avec qui il s'est entretenu une vingtaine de minutes.
Un garçon vint me dire que ma mère m'attendait. Je la rejoignis et m'excusai auprès de Madame Sazera en disant que cela m'avait amusé de voir Madame de Villeparisis. À ce nom, Madame Sazera pâlit et sembla près de s'évanouir. Cherchant à se dominer, Madame de Villeparisis, Mademoiselle de Bouillon, me dit-elle. Oui ? Est-ce que je ne pourrais pas l'apercevoir une seconde ? C'est le rêve de ma vie.
France Culture, le temps du débat, Quentin l'a fait.
Et Véronique Auboui qui me demandait de qui était ce film, et c'est votre film, Véronique Auboui, que l'on vient de diffuser deux extraits de Proust lu. Véronique Auboui, lorsque vous entreprenez ce projet depuis 1993, faire lire à des inconnus, des personnes de tous horizons, des extraits de La Recherche du Temps Perdu, qu'est-ce que c'est l'objectif au fond? C'est d'entrer dans l'œuvre, d'inciter à entrer dans l'œuvre, ou c'est au fond un moyen aussi de l'aborder, mais autrement?
Alors non, c'est pas du tout d'inciter qui que ce soit à quoi que ce soit. C'est vraiment tout simplement de faire un film, en fait. Un film avec un matériel très simple qui est un acteur et un livre. Et des décors, puisqu'on tourne partout. Enfin, j'ai tourné. Enfin, chaque personne est filmée dans un environnement qu'il a choisi. Donc en fait, non, ce qui était important pour moi, c'était d'entendre ce texte lu par des gens différents. Et sans que ce soit, alors pour la plupart bien entendu ce sont des gens qui ne sont pas des acteurs, mm-hmm. hein, mais non seulement ça, souvent il y a des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de lire à voix haute, et donc j'aime entendre ces lectures un peu plates comme ça, où seul en fait le relief vient seulement du texte.
Et je reviens sur cette question du marqueur social, lorsque vous abordez des inconnus pour leur proposer justement de lire un passage de La Recherche du Temps Perdu, quelle réaction vous affrontez? Est-ce que les gens sont effrayés, enjoués, émus?
Alors il y a de tout, évidemment. Il y a même des refus. Hein. Mais il y a une curiosité, il y a la peur de la caméra aussi quand même, qui n'est pas rien. Mais après, moi, j'arrive à rassurer les gens et je fais de ce moment vraiment un moment de rencontre qui est assez fort avec le texte. C'est ce qui se passe. Et ça se voit à l'image, parce que la caméra ne ment jamais. La caméra montre tout. Donc même quelqu'un qui arrive et qui a... Ça dure 6 minutes, hein, donc c'est long. Qui a préparé sa lecture et qui maîtrise vraiment sa lecture, eh bien, au bout de 4 minutes, il y a toujours un petit moment comme ça où il commence à se dire est-ce que j'ai bien débranché mon téléphone. Enfin, il se déconcentre et il y a vraiment un moment un peu comme ça que j'appelle le petit collapse. Et après, la manière, et ça, la caméra le voit, hein. Elle voit qu'il perd un peu les pieds, parce que aussi c'est bientôt la fin, et puis les phrases n'en finissent plus d'en finir, et on voit comment il rattrape le coup, et ça montre vraiment à qui on a affaire. Donc ce film, pour moi, c'est vraiment avant tout une série de portraits, hein, comme il a fait lui. Les gens sont là, ils sont vivants, ils sont pour plus tard aussi, on les verra.
Mathilde Brézet, je vous pose une question similaire. Vous êtes l'autrice, on l'a dit, d'un dictionnaire des personnages de La Recherche du Temps Perdu. Alors, est-ce que ce dictionnaire, c'est un moyen d'entrer dans l'œuvre, un moyen aussi peut-être d'être moins effrayé en approchant l'œuvre de Marcel Proust?
Oui, exactement. Moi, je vais faire comme lecteur de Proust. J'ai échoué 2 fois au moment d'entrer dans La Recherche du Temps Perdu et j'ai réussi la 3e fois. Je crois que cette 3e fois, j'ai réussi parce que je n'étais pas seule et quelqu'un... m'a raconté l'histoire avant que je la lise. Et cette intrigue donc que j'avais en tête au moment de rencontrer les personnages m'a permis tout simplement de soutenir ma lecture et de soutenir mon attention. Et c'est quelque chose que je vois aussi dans l'enseignement. Je crois beaucoup à l'idée d'établir dans l'esprit de celui qui n'a pas lu les... Comme on balise pour une randonnée, on met des piquets et des drapeaux. Il faut préparer le terrain.
Il faut déconstruire le mythe aussi ?
Déconstruire le mythe, oui, mais ça on vient leur dire, c'est pas difficile. Et puis, allez-y. Mais ensuite, faire le travail de récit, avec tout ce que ça peut contenir, évidemment, de partage. Mais moi, telle chose m'a touchée, l'amour, la jalousie, l'homosexualité, on parle quand même de sujets incroyablement forts dans ce livre. Et mon livre, c'est aussi une manière de dire... allez-y, lisez-le, vous connaîtrez l'intrigue avant d'entrer dedans, ça va beaucoup vous aider pour soutenir votre attention.
Philippe Garbi, je vous vois hocher de la tête, c'est peut-être
gentiment.
La première fois de l'émission que vous êtes d'accord.
Bah oui, parce que moi j'ai bien aimé le grand monde de Proust de Mathilde Brézet. Je voulais peut-être lui conseiller un extrait du côté de Guermantes pour vos élèves.
Nous vous écoutons.
Vous leur parlez de... c'est Oriane, la duchesse de Guermantes. Et Swann lui demande, il est question d'une soirée qui va avoir lieu, qu'est-ce qu'il y a chez la princesse ? Alors, presque rien se hâta de répondre le duc, donc le mari d'Oriane, à qui la question de Swann avait fait croire qu'il n'était pas invité. Mais comment, Bazin ? C'est-à-dire que tout le banc et l'arrière-banc sont convoqués, ce sera une tuerie à s'assommer. C'est ce que disent les jeunes, non ? Ça serait une tuerie.
Oui.
Oh, voilà. Bon, alors, vous leur dites donc que Proust, c'est ça. Et que c'est des histoires, c'est de la médisance, c'est des gens qui parlent dans les soirées, dans les matinées.
Mais il y a des expressions très contemporaines. Très rapidement, à la fin, enfin, il dit que il y a des gens qui professent des théories de sociologie et d'économie politique. Il emploie ces mots-là.
Mathilde Brézet, est-ce que vous sentez, vous, avec vos élèves, que Proust est plus difficile à lire qu'autrefois, que l'époque est moins encline à inciter à la lecture de Proust parce qu'il faut du temps, parce qu'il faut de l'attention, parce qu'il faut un désintérêt au fond dans la lecture même, c'est-à-dire qu'on ne lit pas pour apprendre ou pour une raison utilitaire, mais parce que le texte est beau en soi.
Oui, non, moi ce que... c'est compliqué de lire aujourd'hui, ça c'est une certitude quand on voit les élèves qu'on a. Je ne peux pas vous parler des élèves d'avant, ça fait pas très longtemps que j'enseigne, mais c'est compliqué de lire. Et en même temps, l'époque est si aride que le moindre dépaysement, qui est le dépaysement qu'apporte la lecture, est vécu comme quelque chose d'incroyablement libérateur. Et ça a été le cas pour Proust, le petit morceau de Proust qu'on a pu étudier ensemble. Le simple fait de le raconter, qu'à l'époque où se passe ce livre, un monsieur et une dame ne peuvent pas se retrouver tous les deux au café simplement pour discuter et devenir amoureux, mais qu'ils ont besoin d'être invités par... un entremetteur ou une entremetteuse qui s'appelle Madame Verdurin. Et donc le jour où cette personne décide de ne plus recevoir l'un des deux amoureux chez lui, l'histoire d'amour s'écroule, les a complètement fascinés. Et je veux dire, on les attrape autant en leur racontant tout simplement, c'est de l'ordre de l'histoire des sociétés, cet arrière-plan de la littérature, qui n'est pas leur monde, qui est très éloigné d'eux, qu'en leur racontant l'histoire elle-même, même s'ils ont été très sensibles, je parle d'un passage... les lecteurs de Proust l'auront reconnu, d'un amour de Swann dans lequel Madame Verdurin décide de bannir Swann de chez elle après l'avoir reçu pendant longtemps avec Odette.
Forcheville est dans les parages.
Oui.
Philippe Garbi, comment vous expliquez que tant de gens au fond continuent de parler de Marcel Proust sans l'avoir vraiment lu ? Comment ça se fait que ça reste quand même un marqueur social au fond ?
Bah, j'en sais rien après tout parce que... Moi, je n'entends pas tellement les gens parler de Proust. C'est-à-dire, si on sait qu'on est face à quelqu'un qui aime Proust, enfin, qui est, voilà, on le ramène pas en disant je l'ai pas lu ou je l'ai lu ou je sais pas terrible ou donc peut-être qu'en effet on parle, c'est peut-être plus Proust, peut-être que le sujet n'est plus bon finalement du temps du débat. Faut-il lire Proust ? Lit-on encore Proust ? Non, il y aurait peut-être des ruses en fait qui parce que après tout pourquoi vouloir faire lire Proust encore une fois ? On est très bien sans. On peut parler d'autres. J'ai beaucoup d'amis qui n'ont jamais lu Proust et que j'aime tout autant que s'ils avaient lu Proust. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on est parfois, on est en confiance, en confidence, en complicité avec des gens qu'on ne connaît pas mais qui ont lu. Voilà. En fait. Alors, c'est peut-être des petites phrases. Oui, d'accord. Je viens de dire Forcheville, là. Ça fait celui qui se souvient, etc. et tout. Mais après tout, c'est ça la lecture. Ça doit être vrai pour. Moi, j'entends souvent des jeunes gens, mais qui ne sont plus des enfants, plus des adolescents, mais de jeunes adultes, parler d'Harry Potter, que je n'ai jamais lu. C'est pas ma génération, mais ça a l'air formidable. Et je suis sûr qu'il y a tout un monde, et que ce monde est aussi passionnant que celui de Proust. Bon.
Véronique Aubouy, dans votre travail, vous abordez Proust à travers des spectacles, à travers la caméra. Proust, c'est quoi aussi pour vous ? C'est un terrain de jeu, la recherche du temps perdu ?
C'est une matière. Parce que, en fait, je suis artiste, c'est un peu, c'est une matière que je malaxe et que je, et dans laquelle vraiment je trouve, en fait, parce que ça fait longtemps maintenant, ça fait presque 30 ans que je travaille sur Proust et je ne m'en lasse pas, c'est incroyable. J'ai l'impression que je peux toujours trouver, sortir des nouvelles formes et c'est de plus en plus une matière, enfin vraiment la question du partage est très importante. Pas au sens où je veux amener les gens à lire, mais en tout cas, vraiment cette rencontre, ce tremblé qui se passe la première fois, que j'aime tellement voir chez les gens qui abordent Proust avec moi et qui... Et donc, c'est aussi le principe de ce spectacle Proust-Marcel Club que je suis en train de préparer.
Mathilde Brézet, comment vous vous présentez à vos élèves, l'œuvre de Marcel Proust, par quel truchement vous leur apportez la recherche du temps perdu?
Et c'est très difficile et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Proust n'est pas du tout ou très, très peu enseigné, et au lycée, mais d'ailleurs derrière c'est un peu la même chose à l'université, il me semble. C'est très difficile d'enseigner Marcel Proust parce que enseigner, c'est renoncer en gros à 90% de ce qu'on a aimé. On a X heures pour faire passer X choses pour que il se passe quelque chose dans la salle, donc on doit renoncer à énormément et faire des choix.
Est-ce qu'on entre forcément par les images très communes, la Madeleine notamment,
parce que pas du tout. Moi, je n'en parle pas du tout parce que c'est quelque chose qui m'a pas mal ennuyée. Moi, par exemple, les 20 premières pages de La Recherche du Temps Perdu de Combray, longtemps, je me suis couchée de bonheur.
C'est la référence très très commune.
Non, c'est tellement beau. Voilà, je n'ai pas accroché.
Alors, quelles sont les images que vous employez pour entrer dans l'œuvre?
Je commence par des choses très simples, c'est-à-dire, je leur parle de Marcel Proust, qui a écrit ce livre. Je vais très vite. Mais l'idée est de susciter leur attention et je leur dis c'est le plus grand génie, c'est le plus grand génie de la littérature.
Vous le laissez sur son piédestal.
Je le laisse totalement, je crée le piédestal, je bâtis de mes mains pendant 40 minutes de temps un piédestal qui j'espère résistera à tout dans leur esprit. À 40 ans il n'avait rien écrit, à 50 ans quand il est mort il a écrit le plus grand chef-d'œuvre de la littérature. Voilà, je fais des raccourcis. Les gens qui connaissent Proust, on les aurait qui saignent quand je dis ça. Et en même temps, ça n'est pas complètement faux et j'ai un auditoire ensuite. Et ensuite, je vais beaucoup parler de cette toile de fond dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire comment est le monde dont on nous parle et quels sont les grands axes de tension qu'il traverse. Et en l'occurrence, l'amour, la jalousie. On a beaucoup parlé avec les élèves de l'amour, mais ce qui les a beaucoup intéressés, ça a été la mise en scène d'elle-même de Madame Verdurin, qu'ils ont beaucoup relié à tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Cette mise en scène de l'image et Madame Verdurin en son salon qui essaye d'expliquer et de signifier par tous les moyens matériels à sa disposition qui elle est.
Et qui déteste les ennuyeux, Madame Verdurin.
Et qui adore...
Tout le monde déteste les ennuyeux, elle a raison.
Philippe Garbier, est-ce que vous avez les oreilles qui saignent quand vous entendez qu'on entre justement par Proust en parlant de Proust?
Non, pas du tout, parce que par exemple la biographie de Jean-Yves Tadié est formidable sur Marcel Proust, tous les essais de
je rappelle que vous avez consacré un à voix nue à Jean-Yves Tadié,
qui
est encore accessible sur le site de France Culture.
Tout ce qui tourne autour de Proust est intéressant. J'ai fait une nuit spéciale, une nuit au CAFCONS avec Marcel Proust. C'était en compagnie de Nathalie Mauriac, qui dit des choses extraordinaires, très drôles. Enfin bon, sur Proust, en effet, c'est bien d'apprécier un écrivain. Il y a des écrivains tellement antipathiques sur lesquels on a beaucoup de mal à dire que finalement, sur Proust, on a absolument aucune méchanceté à dire. On peut, alors, quand on lit, relit, et puis c'est bien parce que les relectures, ça permet de se dire, mais attendez, là, vraiment, ça m'avait échappé, ça, quand même. Là, à quel point le narrateur n'est pas amoureux d'Albertine. Il est absolument pas. Hein,
on redécouvre. Proust se moque de lui un peu dans ce rapport-là, justement. Oui. On voit que Proust n'est pas son narrateur.
Bien sûr.
Il grossit le trait sur la façon dont il maltraite cette pauvre jeune fille.
Je pense qu'il y a 30 ans, je me disais que le narrateur souffrait par Albertine, qui était vraiment une petite menteuse. Mais pas du tout. C'est ce narrateur qui est un grand malade. Bon. Et il ne l'aime pas. C'est-à-dire qu'il a une passion pour elle, mais il a une passion pour sa propre jalousie. Et c'est vraiment pas pour Albertine. D'ailleurs, vous en parlez, Mathilde Brézet, dans le dictionnaire. Enfin, tous les personnages, roman d'amour, c'est pas tellement l'amour, c'est soit le désir, donc les rencontres, Jupien Charlus, Charlus Morel, le narrateur face à la bande de jeunes filles à Balbec. Mais après, dès qu'il y a une question d'amour, je ne pense pas que Marcel Proust, alors là, écrivain, ou Marcel Proust, homme, sache vraiment, enfin, est vraiment aimé, bien sûr. Enfin,
Véronique Aubry, vous voyez un intérêt, vous, à entrer dans l'œuvre de Marcel Proust par le mythe, par l'écrivain qu'il est?
Ben, en fait, moi, je connais à peine la vie de Proust, pour vous dire la vérité. Vraiment, je
me seule l'œuvre vous intéresse.
Oui.
Et vous touche.
Oui, et en fait, j'ai compris justement qu'il avait du recul par rapport à cette relation qu'il a avec Albert, que le narrateur a avec Albertine, mais dans le texte. Voilà. Non, je trouve que c'est vraiment intéressant justement que l'auteur transparaît à travers ses lignes et de le dissocier, mais sa biographie en fait, enfin non, je la connais vraiment très peu. On pose toujours des questions.
Si le roman n'était pas intéressant, peu importe l'écrivain, enfin sa vie.
Et pour terminer cette émission, puisqu'il nous reste une petite minute, si je devais vous demander à chacun de convaincre ceux qui parlent de Proust sans l'avoir lu, de le lire enfin, Mathilde Brézet, quelques mots pour tenter de les convaincre?
C'est génial.
C'est génial?
Oui.
Philippe Garbi?
Je dirais, je poserai un livre, je poserai du côté de chez Swann, ça, et je ferai comme avec les enfants, je dirais, c'est pas pour toi. Ne lis pas.
Et vous pleurez le désir de la sorte.
Espérons-le.
Véronique Aubry.
Alors moi je dirais que c'est un livre ouvert. C'est un livre qui donne la place, qui va te donner la place. Tu vas le lire et tu vas voir à quel point tu peux rentrer, tu peux compléter les phrases qui sont presque parfois inachevées de ta manière.
Philippe Garbi, vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas tenté par l'idée de relire La Recherche du Temps Perdu.
Non.
C'est ce que j'ai compris, pardon.
Non, au contraire, je lis, relis. Alors évidemment, c'est au détriment d'autres œuvres. Je suis une grande inculture sur des tas de domaines, des tas de littérature. Mais il se trouve que voilà, c'est peut-être une maniaquerie folle, mais j'aime relire.
Mathilde Brézet, c'est pareil pour vous. On entend beaucoup qu'on relit souvent La Recherche du Temps Perdu.
Oui, moi je l'ai lu d'une manière un peu curieuse parce que je me suis intéressée au personnage. Donc j'ai lu tous les passages qui concernaient un personnage, puis tous les passages qui concernaient un autre personnage. Et pour ajouter quelque chose d'assez génial, je dirais aussi c'est drôle.
Oui.
Ah oui.
C'est génial et c'est drôle. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à nos trois invités. Mathilde Brézet, je rappelle que vous êtes enseignante en lycée et vous venez de publier Le Grand Monde de Proust chez Grasset, un dictionnaire des personnages de la recherche. Véronique Aubry, cinéaste et performeuse et entre autres travaux, le Proust Marcel Club, votre dernier spectacle. Et enfin Philippe Garbi, ancien producteur des Nuits Transculture, vous êtes l'auteur de nombreux documentaires sur Marcel Proust. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans le temps du débat à la préparation ce soir. C'était Sarah Masson, Bruno Barada, Rémi Bas et Fanny Richer, Mathias Mégy et Juliette Mouélic. À la réalisation, c'était Thomas Jost et à la technique, c'était Jean-Frédéric.